Alors, bonsoir à tous pour ce deuxième épisode de l'émission Parler, présenté par moi-même. Donc, je m'appelle Damien Hérault. Aujourd'hui, j'ai choisi un petit morceau d'introduction qui est un morceau d'un compositeur français du XVIIIe siècle qui s'appelle Pancrace Royer. Pancrace Royer est un compositeur un petit peu méconnu. Il arrivait à la suite des très grands compositeurs baroques français que sont Rameau et Couperin. Il n'a pas écrit de traité et en plus... Pardon ?
Il faut parler dans le micro.
Ah, d'accord. Je vais essayer de parler dans le micro. Je vais essayer de parler dans le micro. Donc, Pancrace Royer, ici interprété par Christophe Rousset. On a entendu donc un morceau qui s'appelle Le Vertige, qui en fait... passe un petit peu outre les dogmes de la musique baroque, parce qu'il y a beaucoup d'hubris dans ce morceau. Il est construit sur des toutes petites séquences. Ces toutes petites séquences sont sur des formes assez basiques, à base de gammes vraiment très simples, hein, de la première note à la dernière note de la gamme, d'arpèges et d'accords, un côté extrêmement percussif. Et là où la musique baroque voulait toujours un petit peu modérer l'hubris et d'un autre côté la chanson, le Pancrace Royer exagère un peu tout, et même on dit même que c'est un compositeur, j'ai regardé sa fiche sur Wikipédia tout à l'heure, c'est un compositeur furieux. C'est mon copain, c'est un morceau que j'écoute très très souvent. Bon, j'espère que ce morceau va inspirer nos invités d'aujourd'hui, mais qui sont souvent très inspirés, donc... on va s'en sortir. J'ai décidé aujourd'hui d'inviter des gens qui ont été mes collègues, qui sont Maxime Marion et Émilie Brou, qui sont deux artistes qui travaillent ensemble. Bonsoir, Maxime.
Bonsoir.
Bonsoir.
Comment ça va ?
Ça va bien.
Ça va bien.
Plutôt bien, ouais.
D'accord.
Et toi ?
Ouais, ça va. Donc voilà, des collègues. Avec lequel, donc, que je connais depuis environ une année, avec lequel je me suis très bien entendu et dont je pense que le travail a à être peut-être un petit peu plébiscité. Il n'empêche, j'ai préparé quelques questions, bien entendu, et j'aurais aimé savoir quelque chose question que je me pose depuis ce matin, c'est savoir ce que vous avez fait cette semaine.
Ah là là.
Cette semaine, beaucoup de choses. Ouais. Alors on a un peu fait la rentrée aussi, donc on a visité quelques expositions, on a fait quelques vernissages, on est allé voir hier à la New Gallery Amalia Ullman par exemple, on a visité aussi le l'AIA,
Paris International.
Voilà, un peu le tour, la FIAC, on a passé notre tour pour l'instant.
Et puis surtout on a refait notre télé aussi.
En ce moment on passe un temps fou à aller chercher des téléphones cassés et des écrans en banlieue. Ça nous prend une bonne partie de notre temps et ce matin on a travaillé sur un écran cassé de télé. C'est un projet qui s'appelle le retour The Return of the Broken Screen, avec mon super accent, où en fait on réalise des vidéos qui s'adaptent et jouent des brisures de l'écran. Donc c'est des objets de seconde main qu'on récupère et auxquels on donne une seconde vie par des vidéos, mais qui s'adaptent spécifiquement à ces bris. Et on a travaillé ce matin sur une télé cassée qui nous causait quelques soucis puisqu'elle devait partir dans la matinée, mais ça y est, c'est fait.
L'objet télé devient un petit peu vivant, comme Vidéodrome ou Poltergeist ou ce genre de choses. C'est des références,
oui,
que vous avez.
Oui,
bah d'ailleurs le titre il est explicitement en lien avec le côté Return of the Tomatoes, c'est vrai que c'est un peu angoissant, et c'est marrant et angoissant en même temps, parce que tu travailles sur un truc qui t'échappe complètement, quoi. Chaque fois que tu allumes la télévision, la vidéo que tu as faite pour ça est différente. Et donc, quand tu la vois pas longtemps après, ça fait partie du travail d'accepter aussi que ça t'échappe, quoi.
Ouais, parce qu'en fait, les objets portent déjà leur obsolescence, quoi. Et le fait qu'elles soient brisées, elles deviennent vraiment assez précieuse et très fragile. Et le transport, par exemple, c'est une catastrophe pour ce genre de pièce. Donc c'est très très sensible.
Ça brasse l'intérieur du tube cathodique et donc ça change complètement la comment on voit, comment l'image est projetée en fait.
Ouais, c'est ça. Par exemple, pour les télés, les pixels sont souvent un peu déliquescents. Donc la vidéo qui joue avec ses brisures et ses défauts n'a rien à voir avec ce qui s'affiche à l'écran. Donc on est vraiment en travail en double écran et on voit, en fait c'est un vrai travail sur la matière aussi, hein, sur la matière de la télé, où on voit donc quelle zone de la télé va réagir, à quelle couleur. Donc il y a vraiment une itération comme ça dans le travail qui se fait, ce qui est peut-être un peu moins le cas avec les téléphones, parce que les écrans ne réagissent pas de la même manière. Là, on est plus à jouer sur les bris de verre de l'écran.
Et pareil, vous concevez des vidéos pour téléphone brisé ?
Ouais, c'est ça en fait. C'est vraiment, il y a toute une phase où on observe l'objet vraiment, hein, tel qu'il est à un moment donné, quand on le récupère cassé, et on va venir jouer avec...
Sorte de mapping.
Ouais, c'est ça, ouais. Où en fait les bris vont être mis en surbrillance, la vidéo va couler dans les bris, mais c'est vraiment une vidéo qui ne peut être lue que sur ce support-là, précisément. Cette vidéo n'a pas de sens sur un autre support.
Mais c'est vrai qu'avec les télévisions, par rapport à Cronenberg, autant sur le téléphone, c'est souvent les bris du verre qui est une protection, donc tu vas jouer avec ça, c'est du mapping. Mais sur les télévisions, c'est tellement incertain, le plasma, la réaction, il n'y a aucune logique, un seuil de... Tu vas passer d'un gris très foncé à un gris un tout petit peu moins foncé, ça va passer du vert au rouge, c'est vraiment compliqué. Et là, quand on la manipule, pour l'avoir manipulée, celle-ci qui nous a donné un peu de fil à retordre, t'as vraiment... Tu sais pas si c'est physique, si c'est au niveau de la surface de l'écran, et t'as un truc hyper organique, tu la manipule comme si c'était la chose, c'est assez marrant quoi. Alors que c'est un truc qui est bon pour la casse et que tu chopes sur le bon coin à 50 balles quoi.
Bien alors, peut-être que les collectionneurs ont envie de le secouer comme un télécran quoi.
Ouais.
Bah libre à eux.
Hein. Il vaut mieux pas, hein, mais.
Ça va peut-être raccourcir la durée de vie. Hein.
Mm. Et il y a un autre projet aussi sur lequel j'aurais bien aimé vous entendre, c'est un projet dont vous m'avez parlé l'année dernière d'économie avec un système d'action qui m'a semblé assez bizarre et très très différent en fait. Enfin, on dirait qu'il n'y a pas de matérialité pour lequel vous avez pris un avocat, etc.
Ouais.
En quoi consiste ce projet ?
Tu vas, Maxime ?
Bah, oui, je peux commencer. Oui, c'est un projet qui est complètement immatériel. Effectivement, ça prend la forme d'une société. Ce qu'on a fait, c'est qu'on tout simplement, on a voulu créer une société qui était dans sa forme la plus pure. La plus simple, donc il y a vraiment juste des statuts.
Et une société par action simplifiée.
Oui, une SAS. Et donc, qui était en fait en soi, qui dans ses propres statuts, dans son objet social, se définissait comme une œuvre d'art. Donc l'idée, c'était d'avoir juste une coquille vide, l'entreprise la plus simple possible, avec 10 000 actions. Et ces 10 000 actions-là, qui valaient donc un 10 millième d'euro chacune, parce qu'on avait 10 000 et qu'on avait 1 euro de capital initial, qui est le minimum légal possible, elles sont à vendre. Et chacun peut les revendre. Et donc l'idée, c'était d'avoir une sorte de bulle spéculative à l'échelle d'une œuvre. Et pour pouvoir faire ça, puisqu'une société, normalement, elle doit générer du profit, du bénéfice même, c'est le texte initial. On s'est fait aider d'un gros cabinet d'avocats qui nous ont aidé à jouer un peu sur les mots pour que ça passe au greffe et la faire enregistrer légalement.
Oui, parce rédiger des statuts comme ça, c'est vraiment quelque chose de très compliqué. Et il doit y avoir en général dans ces statuts-là une notion en tout cas d'action ou de quelque chose de produit, hein, réellement. Tu parlais de bénéfice, c'est tout à fait ça. Et là, définir une société dans son objet social comme étant une œuvre d'art, c'est...
C'est un contresens.
Ouais. Ouais, c'est très très compliqué. Donc il a fallu jouer sur les mots, vraiment sur l'écriture. Il y a eu un travail vraiment d'écriture qui était assez... Ouais, c'est complexe et heureusement que ce cabinet était là pour nous aider. Quoi.
Ce qui est assez drôle, c'est que les seuls éléments physiques qui existent vraiment dans ce projet, c'est les statuts et le registre de mouvement de titre. Donc c'est vraiment le registre où il y a tous les changements de propriétaire. Mais en fait, les statuts et le registre, c'est juste des outils légaux qui gèrent l'administration des biens que sont les actions. Donc on est vraiment dans une totale immatérialité, c'est vraiment rien du tout. Et tout ce qu'on a, enfin, concrètement, c'est un certificat qui atteste, mais même le certificat vient des impôts, en fait.
Ouais, et jusqu'à maintenant, vous n'avez pas vendu les 10 000 actions ?
Pas encore les 10 000, non.
On en est à quoi, 3%?
Ouais, on a vendu 3%.
Ouais. Et vous les vendez combien ? Vous les vendez un dix millième d'euros ?
Non, en fait, le cours évolue. Donc, le cours évolue en fonction du prix auquel on veut bien nous acheter ces actions. Donc là, il est fixé à 30 euros. Actuellement.
Ouais, donc la société, elle est valorisée.
En vendant une action, vous faites déjà un bénéfice monstrueux par rapport au coût de l'action.
Ouais, en fait, c'est pas. Alors, c'est pas des. Je confonds toujours le terme, c'est entre plus-value et bénéfice. Là, c'est des plus-values.
Ouais,
c'est ça. Donc, on fait une plus-value qui est assez énorme, effectivement, mais c'est pas des bénéfices. Rien n'est produit par la société, puisque ça, c'est vraiment en direct que tu récupères ça. C'est de personne d'associé à associé, tu vois, d'actionnaire à actionnaire.
Oui, la société, elle a pas d'employé, elle a zéro bénéfices, mais par contre, oui, il y a une plus-value sur la revente d'actions. Et là, elle est valorisée à 300 000 euros à partir d'un euro de capital en un an, donc c'est rigolo. Mmh. Quand l'action, elle passera à 100 euros, elle sera valorisée à 1 million d'euros et ce sera assez cool.
En fait, ce qui était intéressant aussi, c'est donc à la fois une pièce qui joue sur la limite un peu de l'œuvre, quoi, une œuvre il n'y a rien, assez immatériel, mais aussi avec la limite de ce qu'est une société. Et je crois que c'est ce qui a intéressé ce cabinet d'avocats notamment, parce qu'on est vraiment dans une société, dans sa forme aussi la plus simple. Il n'y a pas de compte bancaire, par exemple. Donc ça a été toute une négociation, comment créer une société sans compte bancaire. Le minimum de capital possible, c'est 1 euro qu'on s'est divisé. Donc on a déposé chacun à la banque 50 centimes dans une enveloppe, voilà.
Ça peut servir de modèle pour créer une société offshore, je veux dire, si on veut blanchir de la...
Peut-être. En tout cas, les avocats là, du cabinet sont tellement balèzes. Quand on les a rencontrés, il y avait le spécialiste de la défiscalisation qui était là. Il nous disait, non, mais vos actions, vous allez justement, comme on avait un 10 millième d'euros par action, et maintenant on est à 30, on se fait quasiment 100% de plus-value. Et donc, il disait, il faut vraiment que vous créiez d'abord une société qui fasse écran pour le niveau d'imposition. Enfin bon, on n'était pas à ce niveau-là encore.
Mais ce qui est bien, que là où ils seront peut-être utiles, c'est sur les paradoxes un peu que ça peut poser, les paradoxes légaux, parce que par exemple, je sais pas, sur le dépôt du nom de la boîte, c'est pas l'untitled, est-ce qu'on doit la déposer à l'INPI, tu vois, ou pas, le fait que ce soit une œuvre d'art.
On a le droit moral.
Voilà, on a le droit moral, donc on a décidé de pas la déposer. Comment tu fais ta défisc si tu achètes sans action, comment tu défiscalises ça? Est-ce que c'est une œuvre? Est-ce que c'est pas une œuvre? C'est toi qui choisis, en fait. Donc voilà, ça pose tout un tas de questions aussi par la suite, où là, on aura peut-être besoin un peu de leur soutien ou pas. Hein. Pour l'instant, tout va bien. Mais
c'est vrai que la question de la défiscalisation, elle est intéressante.
Bah ouais.
Si tu achètes une œuvre d'art qui est une action, oui, c'est compliqué, ouais.
En fait, là, tu peux jouer sur les deux tableaux parce qu'une société, elle achète ça en tant qu'action. Donc, elle peut, a priori, défiscaliser ça comme une action. Mais elle peut aussi avoir la défiscalisation de l'œuvre d'art si elle affiche le certificat dans ses locaux pendant 5 ans. Donc, voilà, c'est un peu à choisir. Ça fait partie de toutes les questions que porte ce projet. Et ce qui est assez marrant, c'est que quand on le présente, on a tout un jeu de scénos. On va faire le titre en néon, on va jouer sur des faux marbre peint, montrer les documents, etc. Mais souvent, les gens, ça les déstabilise parce que finalement, tout ça, c'est que de la déco.
Il y a un côté un peu yes man.
Ouf,
ouais, je sais pas.
Ouais. En plus, un peu plus raide, peut-être dans la
ouais.
forme.
Ouais. Beaucoup plus raide, quand même.
Mais c'est cool.
Bon, on parle depuis combien de temps, là? Un quart d'heure.
Je pense que c'est...
Ouais. Ouais, donc ça fait 20 minutes. On va pouvoir passer la parole à Karine, alors. Alors, Karine, c'est plus compliqué parce que Karine, en fait, je la connais pas du tout.
Je suis passée juste par là. Bonsoir.
Ouais, bonsoir, Karine.
Karine Klonowski, c'est ça?
Oui. Exactement.
Karine Klonowski. J'ai discuté une fois avec toi, je crois. J'étais bien bourré, c'était un bar à Belleville.
Oui.
C'était un anniversaire.
Non, c'était le lancement, c'était la fête du site internet du...
Ah oui,
ouais, en fait, y a une...
Avec le groupe de rap suisse.
Ouais, exact.
C'est très contextuel.
Ouais.
Ah ouais.
C'est une bonne coïncidence.
Ouais, elle est hyper fan de du, Karine, elle est toujours là à rôder.
Mais en fait, je savais un petit peu ce que tu fais parce que tu m'as dit que tu t'occupais de cet asso qui s'appelle le Syndicat Magnifique.
Ouais.
Et j'ai vu une super expo du Syndicat Magnifique, figure-toi. C'était quand ? Il y a 3 mois ? 2 mois ?
C'était fin juin, début juillet, ouais.
À Pantin ?
À Pantin, exactement.
Dans cette espèce de cave qui sert à faire des concerts clandestins d'habitude ?
C'est ça, des grosses soirées.
Des grosses soirées ?
Mm-mm.
Et puis surtout, j'y étais parce que j'avais un de mes meilleurs copains dans cette exposition, qui s'appelle Damien Gouvier.
D'accord, on n'en avait pas parlé de ça quand
et
on
non.
s'est vu. Très bien.
Alors, qu'est-ce qui vous a pris de faire une exposition comme ça, dans un lieu clandestin, en lointaine banlieue, dans une cave en banlieue ?
C'est un peu le fruit de plein d'enchaînements de choses comme ça. Donc en fait, le Syndicat Magnifique, c'est un collectif curatorial dans lequel on est 4, donc avec Thomas Conchou, Anna Frera et Victorine Grataloup. Et on a pas d'espace pour travailler. Donc en fait, on a pas mal de projets d'exposition qu'on réalise un peu au gré des propositions qu'on nous fait et des lieux qui nous semblent appropriés ou non. Il s'avère que ce lieu à Pantin, on l'a fréquenté parce qu'on y faisait la fête. Et puis suite à des discussions avec les gérants de ce lieu, eux en fait organisent... je sais pas trop comment c'est maintenant, mais à l'époque ils organisaient une soirée tous les 15 jours et ils voulaient essayer de faire vivre le lieu autrement. Donc ils se sont dit qu'une exposition ce serait bien, donc ils nous ont proposé ça et en fait c'est le lieu qui a dirigé l'expo et pas l'inverse. Je disais qu'on avait pas mal de projets en stock, là le lieu était tellement présent en fait qu'on a conçu une exposition exprès pour.
C'était une exposition avec des pièces qui étaient principalement lumineuses.
Oui.
Donc finalement, c'est les pièces qui éclairaient l'espace. Quoi,
c'est ça, on a un peu choisi des pièces qui s'auto-éclairaient. Il y avait pas mal de vidéos aussi.
Ouais.
Et
il y avait qui dans cette expo ? Histoire d'être un peu factuel comme ça.
Alors, donc il y avait Damien Gouvier, il y avait Ken Sorté.
Ça, j'ai adoré Ken Sorté.
Ouais.
Super beau boulot.
Pièce. Ouais. Il y avait...
Pardon ?
J'étais à l'école avec...
Je dois informer tout le monde que Simon Nicaise était à l'école avec Ken Sorté. C'est important à savoir.
Il y avait Tayeb Bayri
qui ouais.
présentait une vidéo projetée en très très grand. Oui, il y avait Alix Desoblio qui était la vidéo de l'autre côté sur un petit écran. Des paysages générés par un logiciel 3D qui s'appelle Terragen. Il y avait Étienne François, la pièce en parpaing quand on arrivait
ouais, okay.
avec la lumière qui balayait.
Ça, c'était assez drôle.
Elle est très très minimale mais très efficace. Il y avait Quentin Evert.
Ah oui, de Jeune Création.
Ouais, voilà.
Ouais.
Oriane Amgar qui faisait une performance et qui diffusait un son dans une alcôve.
Ouais, je crois que j'ai loupé.
C'est dans une petite grille, dans une sorte de tuyau.
Ouais, j'ai loupé ça.
Il y avait Mimosa et Char.
Bien sûr. Qui est partout.
Et Jonathan Pepp.
Jonathan Pepp.
Les exobiotes. Les
sortes. Ça m'aide pas beaucoup ce que tu dis. Hein.
C'est très éloquent, les exobiotes, pourtant. Ouais. Les sortes de petites amibes en silicone blanc qui se gonflaient et se dégonflaient.
Ah oui, ok.
Branchées sur un boîtier Arduino.
Ouais, ok. Ouais, ouais. Ouais.
Raphaël Moreira Gonzalez. Pardon, j'écorche son nom. C'est la sculpture en réalité augmentée. Faut que je fasse marcher ma mémoire, j'avais vraiment pas prévu de faire ça.
Mais t'as presque fini là.
Ouais, j'ai presque fini. En fait, tu t'en souviens très bien et tu me fais tout énumérer.
Mais moi, je me souviens pas de tous les noms quoi.
Clémence de la Tour du Pin, les posters enduits de
qui est à complot en ce moment.
Mixture, oui, c'est ça.
Ouais. À Bruxelles.
Mais je crois qu'on y est là. Hein.
Je sais pas.
Il me semble que
si
oui.
Tu le dis.
J'essaie de revisualiser l'espace. Je pense que c'est bon si j'ai oublié quelqu'un.
Et d'où est-ce que tu connais Maxime et Émilie alors?
J'ai rencontré Maxime et Émilie parce qu'on a participé à Jeune Création la même année.
Comme artiste?
Ouais, en 2013.
Donc toi t'es aussi artiste?
Oui.
Bah surtout ça, c'est intéressant. Pardon?
Surtout artiste.
Surtout artiste.
Enfin, je crois.
Ah ouais, ok. Mais il va falloir te réinviter alors parce que là, on est un peu short.
On est un peu trop pour une demi-heure.
Et puis je vais regarder quoi, quand même un peu parce que sinon, ça va être la catastrophe.
Ça peut être très drôle.
Mais je m'en étais douté quand t'as dit que tu faisais du clavecin. Je me suis dit, elle doit être artiste. Il y a un truc qui peut pas être que commissaire.
Oui, du clavecin HL, c'est aussi très important.
Qu'est-ce que c'est du clavecin HL?
C'est quand tu fais du clavecin, mais dans la ville de Shell, ouais.
Ah, du clavecin c'est pas pareil. HL. Ouais. Je croyais que le clavecin HL, c'était un modèle de synthé qui était sorti dans les années 80, ouais. Le HL 1900. Ou,
Bah, c'est sur ce modèle-là, d'ailleurs, qu'il a joué tout à l'heure, sur ce que t'as passé.
Rousset, il joue que sur des clavecins d'époque. C'est un baroqueux, hein, il est genre... Il est dur avec ça. Bon, bah, je crois qu'on a terminé. Je propose qu'on réécoute 2 minutes du vertige de Pancras Royer. Je remercie mes invités, que je vais renommer encore une fois quand même, que ça rentre bien dans vos mémoires. Maxime Marion, Émilie Brout, B-R-O-U-T. Vous pouvez les trouver sur...
Pourquoi t'appelles que mon nom?
Sur... Internet, entre autres, et Clarine Klonowski du magnifique syndicat
Eppel,
magnifique.
Eppel
Klonowski.
Klonowski.
K-L-O-N-O-W-S-K-I, si c'est polonais.
Ouais, bravo.
Bravo. Voilà. Bravo.
Merci.
Merci d'être.
Thank you.